Bonjour, bienvenue à Radio Renard. Cette semaine, notre invité est Dany Bouchard.
Bonjour.
Bonjour, Dany, qui est un ami à Vincent. Donc, vous vous êtes rencontrés par un ami commun et vous avez aussi voyagé ensemble. Vous avez fait notamment une trek de 2 semaines au Népal.
Oui.
Qui vous a fait vivre toutes sortes d'aventures. On va y revenir. Et aujourd'hui, on t'invite pour ton expertise et ta passion pour le slackline.
Oui.
Fait qu'on va découvrir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à découvrir cette discipline-là et cette communauté-là. On va faire une petite introduction sur ton profil parce que ton travail est atypique dans notre milieu, je dirais, mais dans toi, c'est ta communauté, c'est tu es maraîcher.
Oui.
Et tu as travaillé à la ferme des Quatre Temps. Et en ce moment, c'est notamment des projets qui t'occupent. Est-ce que tu nous parles un peu de ton emploi et de ton style de vie relié à ça?
Ben oui, absolument. Moi, comme tu disais, je suis maraîcher. J'ai travaillé les 3 dernières années à la ferme des Quatre Temps. Mais je viens pas d'une famille de fermiers, puis j'ai pas grandi dans cet univers-là. C'est d'autres portes qui m'ont amené à faire ça. Puis le maraîchage, c'est un métier qui utilise énormément le corps, énormément le mouvement. Notre corps, c'est notre outil numéro un. C'est super important de faire attention à notre corps, à nos articulations, à la façon qu'on fait des mouvements. Il y a énormément de mouvements qui sont faits de façon répétitive aussi. Mais grosso modo, mon mode de vie, c'est le mode de vie de maraîcher. Il est quand même cyclique. T'sais, on suit vraiment le fil des saisons. Fait qu'il y a une intensité qui grandit au printemps. À l'été, c'est vraiment comme super intense. Puis là, à l'automne, ça diminue. Puis en hiver, il y a une pause à cause du cycle des saisons. Ça fait du bien aussi. Ça permet de se recharger les batteries, puis de faire autre chose, d'aller voir sa famille, ses amis qu'on n'a pas eu le temps de voir durant l'été. Puis moi, ben, de l'autre côté, ça me permet aussi de voyager pour poursuivre ma passion de la slackline, de la highline, puis d'aller dans d'autres endroits où il fait plus chaud, puis mm-hmm. pour en faire durant les mois de l'année. Fait que finalement, comme il y a toujours un genre d'intensité dans mon mode de vie, là, de projets qui suivent un après les autres.
Une variété, en fait.
Une variété, oui.
Un certain mouvement dans tes... C'est des cycles de mois en mois. Puis, juste pour mettre les gens en contexte, on a découvert tantôt qu'on a grandi les deux à Laval. Ouais. Avec Vincent aussi, d'ailleurs. Yeah. On connaît bien la vie de banlieue. Et je crois que tu parlais aussi de ton enfance. Fait que, c'est quoi le lien que tu vois entre le profil que tu avais comme enfant, peut-être plus solitaire, puis le style de vie que tu as en ce moment?
Ah, j'aime ça. Comment tu l'approches? Ben, j'ai vécu plusieurs phases là, tu sais, dans mon enfance, dans mon adolescence, mais il y a une phase en particulier, je me souviens que j'aimais ça passer du temps tout seul. J'ai toujours aimé ça passer du temps tout seul. Je me suis toujours senti bien. Il y a des gens qui s'angoissent quand ils sont pas entourés d'amis ou de famille, mais moi je me sens bien seul. Puis même j'ai réussi à l'identifier dernièrement, tu sais, dans les dernières années, que c'est quand c'est un besoin qui est fort pour moi de me retrouver. Puis, mais des fois, tu sais, j'ai le sentiment que ça peut être perçu comme si, des fois, je crée des barrières, tu sais, mais c'est pas que je crée des barrières, c'est que j'aime cet espace-là où je me sens bien, tu sais, seul. Ça fait longtemps.
Inception. Vince est en train de faire un story Instagram, pardon, puis on a entendu le...
Désolé, continuez.
Fait que, ouais, c'est ça, mais ça fait en sorte que ça fait quand même du sens, tu sais, avec le style de vie de maraîcher et la passion pour la slackline. Parce que maraîcher, on va souvent se retrouver aussi, malgré le fait que c'est communautaire, surtout à la ferme des Quatre Temps où on était 10 employés. Il y a beaucoup de tâches qu'on fait, puis on est plutôt seul. Mmh. Tu sais, si je récolte des choses ou pendant longtemps, ou si je nettoie des légumes, tu sais, il y a comme un genre de mouvement répétitif, un peu méditatif, tu sais, qui s'installe. Puis il faut être bien, tu sais, dans ça, tu sais, faut être bien dans cet espace-là. Puis moi, j'aime vraiment ce moment-là. Puis c'est la même chose avec la slackline, où c'est une pratique qui rassemble une communauté, mais que la pratique elle-même, ça se fait seul, tu sais, t'es tout seul sur la ligne. Puis des fois, je fais des blagues avec mes amis quand on fait de l'highline, tu sais, on prend toute cette énergie-là pour se rassembler, pour faire notre pratique. Puis là, on est sur le bord du canyon. Mais on attend tout d'être seul. On a tout hâte d'être seul, tu sais. Fait que, autant qu'on est des amis, tu sais, c'est comme, ah, moi j'ai assez hâte d'être d'être sur la ligne pour être seul.
Fait qu'est-ce qui t'a mené à, de fil en aiguille vers la slackline? Comment tu l'as découvert, en fait?
Moi, j'ai découvert la slackline en allant au parc du Mont-Royal. Oh, ça faisait des blagues tantôt. Parce que... bref, c'est que la slackline, tu sais, c'est ça, c'est... la slackline, pour ceux qui connaissent pas la slackline, c'est une discipline qui c'est une discipline d'équilibre qui peut ressembler à au funambulisme. Fait que c'est de se tenir en équilibre sur une sangle. Puis les différences fondamentales avec le funambulisme, c'est que le funambulisme, c'est fait sur un câble d'acier ou d'un autre matériel là, qui est similaire. Puis c'est très 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 rigide. Et puis aussi, on va utiliser une pole, fait qu'un bâton qui va nous aider dans notre équilibre. La slackline, la différence, c'est que c'est fait sur une sangle qui peut être soit de 2,5 cm, 1 pouce, ou 5 cm, 2 pouces. Puis on va juste utiliser notre corps, nos bras, nos jambes, notre corps pour se tenir en équilibre. C'est ça, c'est en tout cas, je peux vous montrer. Ceux qui écoutent visuellement, là, c'est pas plus large que ça. T'sais, ça, c'est une vraie slackline là, qu'on marche dessus.
Moi, ça m'a surpris. J'étais sûre que c'était vraiment plus large. Je pensais que c'était presque la largeur d'un pied.
Non, c'est ça. Puis on se rend compte qu'on est... Tu sais, c'est vraiment suffisant, tu sais. Puis même que ça permet au pied d'avoir une emprise dessus, tu sais. Parce que même je peux, comme, comment dire, plier... Tes orteils, tu sais, clac, pour l'attraper. Fait que bref, c'est ça les différences fondamentales entre le funambulisme puis la slackline. Aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins de tension dans le matériel. Puis vu qu'il y a moins de tension, mais ça permet, il y a une plus grande il y a un plus grand dynamisme dans la ligne. Fait que ça permet, il y a plus de possibilités de mouvement avec le corps. Il y a plus de possibilités de se rattraper.
Il y a des imprévus
aussi. Quoi qu'il y en a aussi dans le funambulisme, mais bref, c'est ça. Moi, j'ai connu la slackline en allant au parc du Mont-Royal. Il y a des rassemblements tous les dimanches, là, en été, quand il fait beau. Puis je suis tombé là-dessus vraiment par hasard. Puis j'ai tout de suite, quand j'ai essayé, c'est comme... J'ai tout de suite aimé ça, mais ça c'est venu chercher quelque chose que finalement, c'est comme si c'était déjà en moi, tu sais. Puis ça revient à ce que je disais tantôt. Je me sentais bien là, tu sais. C'est un moment où est-ce que tu vas sur la ligne... Et là, tu rentres, et là, pour que ça fonctionne, il faut que tu sois vraiment dans un état de focus comme intense, là. Fait que c'est très méditatif, très personnel, puis il faut se concentrer, il faut être calme, il faut être à l'écoute de son corps, il faut oublier un peu ce qui se passe autour, puis ce qui se passe souvent, c'est quand on va fixer un point en avant, puis là, le reste va comme s'embrouiller un peu, là. Puis là, c'est comme la vision, puis ça, c'est, j'ai tout de suite aimé ça. Puis j'ai continué à en faire, puis là, éventuellement, j'ai rencontré des gens, puis là, j'ai rencontré des gens vraiment incroyables que j'ai super connecté avec, puis j'ai évolué là-dedans.
C'est drôle parce que tu me parlais tantôt, tu t'enseignes aussi, tu fais des cours d'introduction à la slackline, dont à des enfants, puis tu dis que tu remarques des fois des enfants qu'à un jeune âge, ça clique presque immédiatement, puis t'écoutes vraiment attentivement pour s'améliorer de plus en plus rapidement.
Absolument. Il y a vraiment des caractéristiques. Moi, j'observe, puis c'est pas... je fais une certaine généralisation, mais ça s'applique pas à tout le monde, mais il y a quand même il y a des caractéristiques que les gens qui font de la slackline ont en commun. Puis là, je l'ai remarqué chez les enfants récemment, puis ça m'a sauté aux yeux, tu sais. Il y a une fille, qui est dans mon cours, puis elle a naturellement, c'est comme cet endroit-là, quand elle est sur la ligne, elle aime ça, ça lui fait du bien. Puis c'est la même chose pour moi, quand j'ai commencé, j'allais sur la ligne, ça me faisait du bien d'être là. Fait que c'est comme une, c'est un peu comme, ça devient presque une pas une drogue, mais tu sais, c'est comme, tu sais que ça, c'est ça, ça fait du bien. Fait que là, tu veux, puis là, tu veux tout le temps... T'en veux plus, tu sais, t'en veux plus. Puis il y a comme d'autres types de personnalités que... puis en même temps, il faut que tu arrives à te calmer, puis tu sais, prendre le temps. Puis il y a des enfants qui ont besoin de plus de dynamisme, tu sais. C'est comme courir, là, dépenser toute son énergie. Ben, ça va être peut-être plus difficile pour ces enfants-là de... Mais en même temps, ça peut être super bénéfique, parce que ça peut comme les aider à se centrer. Mais ça peut être plus difficile aussi de prendre un enfant puis dire comme, OK, là... là, on se calme.
Mm-hmm.
Puis là, on voit sur la ligne. Fait que là, c'est ça.
C'est drôle parce que moi, je suis pas une fille de sport intensif. Puis j'aime pas les films d'horreur. Puis le point commun que je vois, c'est des émotions trop fortes. On dirait que je suis assez sensible en général. Puis j'ai pas besoin d'émotions super fortes pour ressentir des trucs assez intenses. Fait que c'est pas pour moi. Mais j'écoutais un podcast, puis la personne en parlait, les gens fans de sport extrême. Je me disais, oh, c'est parce qu'il y a les émotions fortes. Mais la manière qu'il présentait, c'est de dire, c'est tellement intense que tu dois te concentrer sur le moment présent puis être dans le flow parce que c'est carrément dangereux si tu l'es pas. Puis c'est une façon de t'amener à méditer. Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir comment il y a tellement de contextes différents qui vont permettre à chaque personne de trouver cette place-là à l'intérieur de soi où on sent qu'on connecte puis qu'on est bien puis qu'on perd un peu la notion du temps, tu sais.
Absolument.
Puis c'est, je pense que c'est ça la philosophie de Renard, c'est de pas dire qu'il y a une activité meilleure qu'une autre, mais que de dire essaie plein de choses ou découvre parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu connais pas encore, quelque chose que tu peux essayer qui va te faire du bien. Puis des fois, c'est en l'essayant qu'on le sait. Puis toi, tu as eu la chance de découvrir cette communauté-là au Mont-Royal. Pour revenir sur la blague tantôt, c'est pas qu'on riait des gens de Saclang, mais moi, je suis la joueuse de balle molle au coin de la rue, au baseball, puis je joue là justement parce que j'adore l'ambiance du parc d'Annonce, puis du parc du Mont-Royal. Cette effervescence-là, c'est un parc que je pense que les gens aiment justement parce que c'est tellement éclectique, puis il y a une pratique libre de toutes sortes d'activités qui se fait. C'est des gens qui font de l'acro-yoga dans le sens popularité. Puis je pense que le point en commun, c'est que ça demande peu d'équipement. Les gens le font en dessous des arbres, puis la slackline, ben vous installez une ligne. Je pense que c'est ça le vocabulaire. J'allais dire un film, mais c'est pas... ligne en dessous des arbres, c'est mobile. Mais j'ai l'impression que là, la slackline peut avoir aussi un petit virage plus intense, parce que ça peut donner de la highline, ou c'est la slackline en hauteur.
Effectivement.
En quoi est-ce que ça... C'est quoi la différence entre un peu ces deux pratiques-là ou ces deux univers-là?
La différence, c'est juste... Comme le nom, en fait, c'est une terminologie pour nous aider à plus comprendre de quoi on parle. Fait qu'un peu comme en ski, tu sais, il y a du ski alpin, du ski de bosse, tu sais, c'est juste, ça nous permet de savoir c'est quoi. Fait que là, la highline, c'est quand c'est haut. Puis physiquement, ce que ça fait comme différence pour la personne qui le pratique, c'est que là, on ajoute une autre dimension, qui est la dimension psychologique de la peur. Vraiment pure là, et simple. Parce que on peut prendre la même ligne au parc, puis l'amener en highline. Là, il y a des petites différences techniques au niveau de l'installation qui sont importantes à faire, là, mais bref, je ne vais pas embarquer dans les détails, mais prendre la même ligne avec les mêmes difficultés physiques, on l'amène en highline, puis tu prends quelqu'un qui était capable au parc, puis tu l'amènes en highline pour la première fois, puis il ne sera pas capable, probablement, tu sais. Moi, je n'étais pas capable. Moi, quand je suis arrivé, je me disais, ben non, moi, j'aurais pas peur, là, tu sais, ah, ben non, c'est bien correct.
Puis moi, attaché,
je suis attaché, c'est sécuritaire. J'étais figé, là, j'étais pétrifié. Parce que ton corps, il dit, je suis pas supposé être là, en plein milieu du vide, sur une ligne qui fait un pouce de large. Ça fait pas de sens, tu sais. Fait que ton corps, autant que ta tête dit, tu sais, déjà qu'il y a un débat dans ta tête de dire, ben non, c'est safe, puis là, dire comme... Mais non, je suis capable. Puis là, il y a une petite voix qui dit « tu vas mourir ». Puis là, ton corps, lui, son instinct de survie, il lutte. Il veut pas, là. Fait que là, ça fait que tu te crispes. Puis là, tu dépenses toute ton énergie à juste être crispé, tu sais, puis à capoter, tu sais. Moi, ça m'est arrivé, c'est quand j'ai commencé, c'était ça. Puis éventuellement, tranquillement, tu sais, on se conditionne à comprendre que c'est sécuritaire. Puis là, il faut prendre des chutes. Puis c'est quand on commence, c'est ça. T'sais, on prend des chutes, on se relève, on apprend les techniques pour remonter. On remonte, on prend des chutes. Puis là, il faut envoyer des messages positifs au cerveau pour dire « c'est correct, tout va bien aller ». Puis là, c'est vraiment une autre pratique parce que là, ça prend un engagement vraiment plus grand. T'sais, les barrières à l'entrée là sont vraiment plus grandes. Il faut vraiment là que tu veuilles faire ça parce que sinon...
Toi, ton être ne veut pas que tu fasses
ça. C'est ça, là, c'est complètement non naturel. Puis, mais les rewards, là,
les bénéfices. Les bénéfices. Ça reste ma question, les bénéfices.
C'est incroyable. Tu sais, puis c'est ça qui est intéressant avec cette pratique-là, c'est qu'il est rempli de petites victoires. C'est des petites victoires à l'infini. Il n'y a pas comme de grosses victoires comme tu gagnes le tournoi à la fin de l'année, tu sais, c'est comme, non, tu sais, tu gagnes tout le temps des petites victoires, mais toi pour toi.
Mm-hmm.
Puis là, tu deviens un petit peu meilleur, puis un petit peu meilleur. Puis la même chose avec l'highline, tu sais, quand tu réussis à te lever debout pour la première fois, c'est une grosse victoire, tu sais, puis là, tout le monde sur le côté du cliff sont contents pour toi, puis là, la fois d'après, il y a une petite progression, une petite progression. Puis au final, tu sais, ça mène à être debout à l'extrême, tu sais, dans le milieu du vide,
mm-hmm.
à comme 150 mètres d'un cliff de n'importe quel côté, 150 mètres en dessous de toi, il n'y a pas de meilleure vue que ça, là. Moi, j'ai, tu sais, puis là, tu peux méditer, là.
Mm-hmm.
C'est...
Puis cet apprentissage-là, de ça amène une conscience de ton corps et de ton esprit, parce que si tu adresses pas ça, tes peurs, ben tu peux rien faire. Genre, tu peux pas faire l'activité. Fait que t'as dû apprendre à déconstruire tes peurs, puis à rassurer ton corps, puis à t'entraîner pour l'amener capable physiquement aussi de le faire, parce qu'il y a l'aspect psychologique, mais il faut aussi avoir une certaine musculature pour être en équilibre et tout. Fait que cet apprentissage-là qui était fait dans le contexte de ton... On savait pas si on appelait ça une discipline ou un sport, mais de ton sport... Comment ça allait te changer ta vision au quotidien, genre? Ça allait-tu influencer ta vision du monde, ton approche par rapport à la gestion peut-être de tes émotions, de ta pleine conscience au quotidien? T'as-tu vu un impact qui s'est transféré de la sacline au reste de ta vie?
Oui, puis ça va des deux côtés. Moi, la sacline, ce que ça m'a appris aussi, ça m'a juste reconfirmé que on peut tout apprendre. Tu sais, c'est une question d'énergie puis de vouloir. Mais tu sais, c'est comme... Ce qui semble impossible, finalement, ça l'est pas, tu sais.
Mm-hmm.
Moi, quand j'ai commencé la slackline, je célébrais mes victoires de faire 2-3 pas, tu sais. Puis après ça, j'ai vu des vidéos de gens qui faisaient de l'highline dans le parc national de Yosemite, tu sais. Puis j'étais comme, c'est qui ces gens-là? C'est des... Tu sais, je créais des barres, tu sais, des ponts gigantesques entre eux et moi, là, j'étais comme, mais non, tu sais, ça, c'est d'autres personnes, tu sais.
C'est un univers inaccessible.
C'est inaccessible, tu sais, c'est si, c'est ça, mais finalement, non, tu sais,
c'est quoi les étapes que t'as... En fait, je vais faire un saut dans le temps, puis après, on va refaire le cheminement. En fait, c'est ça, c'était inaccessible, mais l'année dernière, tu as fait la plus longue traversée de Highline au monde. Vous avez battu le record.
Ouais.
Et c'est au Québec, au-dessus de la mine d'asbestos,
ouais,
qui a été réouverte juste pour vous, parce que c'est un projet en partenariat avec la ville qui veulent revaloriser asbestos.
Exactement.
Fait que, qui est assez fou. Fait que là, on va revenir là-dessus, mais là, on va faire le chemin de qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là où tu regardais devant toi, puis que c'est un autre univers, puis que maintenant, t'en fais partie, tu sais. Qu'est-ce que c'est? Ça fait combien d'années que tu fais de la sacline?
Ça fait 3 ans et demi.
OK, fait que c'est quand même rapide. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans et demi entre le moment où tu as découvert la sacline puis maintenant que tu voyages partout dans le monde avec d'autres passionnés?
Mm-hmm. C'est passé plein de choses, mais ça me fait penser à un petit truc là, que j'ai envie de faire une petite parenthèse. Mm-hmm. Mais quand j'étais avec Vincent au Népal, on était ensemble quand il y avait les gros tremblements de terre en 2015. Puis ça, ça m'a vraiment énormément marqué là, dans ma vie, là. Puis je suis pas sûr que Vincent aussi.
Oui!
C'était un événement assez troublant, mais ce que j'ai appris là-dedans, c'est que une des choses que j'ai appris par la suite, c'est que on vivait dans une incertitude qu'on n'avait pas le contrôle. C'est-à-dire qu'il y avait des tremblements de terre à tous les jours. Puis,
c'est pas un tremblement de terre.
Non, c'est ça. Il y a eu un premier tremblement de terre suivi d'un gros... aftershock, là, qu'il appelle, un deuxième, là, 24 heures après. Puis ensuite, là, il y en avait comme tous les jours, il y en avait en moyenne 3 ou 4 là, en haut de 4 sur l'échelle de Richter à tous les jours. Fait que c'est comme un mode de vie à un moment donné.
Tu sais que ça va arriver,
puis tu sais, là, il y a des spéculations sur il y a tant d'énergie d'accumuler encore, ça veut dire que ça va péter tellement plus, puis tout. Puis moi, ce que j'ai appris là-dedans, c'est que on avait trouvé moyen, on avait trouvé la paix dans le chaos.
Mm-hmm.
C'est comme, il y avait le chaos, mais tu peux pas être stressé tout le temps, tu sais. C'est comme si ça fait mal, là. À un moment donné, tu te souviens que le stress s'en va, puis même si c'est une situation que t'as pas le contrôle, tu peux réussir à te calmer.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Puis être en paix avec ça. Puis juste l'accepter sans jugement. Puis ça, ça m'a beaucoup aidé dans mon évolution dans la pratique de la slackline. Parce que il y a bien des moments où tu n'as pas le contrôle. Tu as l'impression que tu n'as pas le contrôle. Qu'il y a plein de forces qui sont contre toi. Mais finalement, il faut pas que tu luttes contre les forces. Il faut juste que tu sois là avec elles. Mm-hmm. Puis que tu... Puis que t'évolues là-dedans, tu sais. Fait que c'est, je pense que c'est ça qui m'a aidé dans mon parcours aussi avec la slackline. Puis dans les trois dernières années, je pense que ce qui m'a le plus aidé là-dedans, c'est quand je me suis fait des amis qui en faisaient, puis qui étaient passionnés, puis qui on a tout de suite connecté vraiment fort ensemble parce qu'on avait cette espèce de même énergie-là, puis mm-hmm. cette même passion-là. Puis ils m'ont tellement appris, ils m'ont guidé, on a fait des voyages ensemble. Puis là, la première étape, ça a été comme de rencontrer des amis dans ma discipline. Puis ça, je pense que c'est la même chose pour toutes les disciplines. T'sais, quand on commence à se faire une communauté, là, ça ouvre tellement de portes. Puis après, c'est de faire des voyages à l'international, puis là, de voir que, waouh, il y en a plein des communautés, là.
Mm-hmm.
Puis il y en a plein des beaux spots. Puis là, de rencontrer des gens, puis là, tout d'un coup, tu te ramasses à une place, puis t'es comme, shit, ça, lui, c'est le meilleur dans le monde, là. Ou comme, une des personnes que moi, je suis sur les médias sociaux depuis comme, que j'en fais, puis dans c'est ma tête, c'est comme, waouh, c'est lui le meilleur dans le monde. Puis là, tu le regardes, tu te dis, hey, il est vraiment bon, mais tu sais, comme, je suis pas si pire que ça, moi, finalement. Mm. Tu sais, c'est comme, ah, tu sais, c'est cool, tu sais, on est bon au Québec, tu sais, tabarouette. Là, je reviens ici, je dis à mes amis, je dis, hey, vous comprenez pas à quel point vous êtes bon, là, tu sais, on est bon, là, ici, là.
T'es comme dans la bulle, fait que tu t'en rends pas compte
du moment. Ouais, tu sais, on comprend pas, on sait pas, tu sais. Puis le monde, ils montrent toujours les belles photos, puis les mêmes affaires, les belles affaires, mais tu sais, finalement, tu sais, il y a rien de parfait, tu sais. Fait que là, ça a donné ce spark-là aussi, puis là, éventuellement, faire des plus gros projets, puis là, rencontrer plus de monde, puis se tisser de liens, puis de confiance, puis là, éventuellement, ça l'a mené à des opportunités comme avec la mine d'asbestos, où là, il vient le questionnement ou l'espèce de remise en question de légitimité qu'on parlait tantôt, tu sais. Des fois, on a des sentiments d'imposteur, tu sais. On se dit, moi, je suis qui, tu sais? Je suis qui là-dedans, là, dans ma pratique? Ben non, tu sais, c'est pas vrai. T'as le droit.
Mm-hmm.
Tu peux tout faire. C'est comme, on le fait comme, regarde, on le fait, that's it. Puis on est allé, là, puis on l'a fait. Puis on a installé, on a battu le record du monde de slackline, là, tu sais.
C'est dans le record Guinness, genre record Guinness?
On n'est pas dans le record Guinness parce que ça, c'est une autre, c'est une entreprise, puis là, il faut
payer, il y a des démarches.
Il y a des démarches.
Parce qu'il faut un officier ou comme un inspecteur
qui vous... C'est ça, ça prend l'inspecteur.
Mais dans la communauté.
Dans la communauté,
tout le monde sait que vous avez battu le record.
Ben oui.
Parce que c'était combien, c'est long comment l'année?
C'était 1,9 km de long.
Fait que quelqu'un qui va à un certain rythme comme toi, qui a de l'habitude, combien de temps ça prend à traverser?
Ça m'a pris 2h20.
Oh my god, je te l'ai fait 25 minutes, là. 2h20.
Ouais.
Wow. Puis est-ce que t'es-tu tombé en chemin?
Moi, je suis tombé peut-être entre 5 et 10 fois, là. Je sais pas compter, là, mais on va dire une dizaine de fois.
Rendu là, t'avais-tu peur? C'était vraiment le feeling de traverser la mine d'asbestos?
Pour moi, ça a été l'aboutissement d'un... C'était comme mon cadeau, en fait, là, que je me donnais là, de la traversée parce que j'ai travaillé vraiment fort à l'organisation avec des amis ici à Montréal, avec mon ami Julien de Slackline Montréal, avec des amis vraiment proches, tu sais, Renaud, Mathieu, puis j'ai passé des centaines d'heures à travailler là-dessus sans... En ne sachant jamais si on allait même réussir à l'installer, tu sais.
OK.
C'était tout dans le doute, parce que ça n'a jamais été fait, tu sais, fait que c'est comme, on ne savait pas. Fait qu'à un moment donné, là, dans le parcours juste de l'organisation, est venu toutes les étapes, les mêmes étapes que dans ma progression de l'highline. De se dire, à un moment donné, aïe, c'est donc bien gros, c'est inaccessible, j'y arriverai jamais. Ou tu sais, comme tu mets tellement de temps, puis tu sais pas si à un moment donné tu vas les briser les portes qui vont te permettre que ça soit plus facile, tu sais. Puis là, ça s'est passé, puis éventuellement, quand on a finalement vu la ligne, tu sais, décoller du fond de la mine, j'avais les larmes aux yeux, là, tu sais, c'était fou, là. Mm-hmm. Tu sais, on était 20 dans la mine, C'est mon père qui l'a tendu avec une redirection avec des poulets avec son char. Mais c'est un système, c'est super, je dis ça même, c'était super botché. Non, ok, c'était vraiment... Non, c'est juste parce que ça prenait des grosses forces pour tirer. Fait qu'à place de tirer avec whatever, un winch, tu sais, on avait un véhicule, puis en tout cas, whatever, le système était en place. C'était sécuritaire.
On va y revenir sur l'aspect technique, mais
ouais.
Je pense qu'il y avait aussi de l'incertitude dans le sens que tu travaillais tellement que tu savais même pas si tu allais avoir le temps de t'entraîner puis de toi-même faire la traversée.
Exactement. Moi, je travaillais à la ferme, tu sais, 40-50 heures semaine. Tout le reste de mon temps pratiquement était consacré à l'organisation de tout ça. J'avais même plus le temps pour m'entraîner. Fait que là, c'est comme, aïe aïe, moi, j'organise ça, je serais même pas capable d'aller dessus.
Mm-hmm.
Là, c'est brise-cœur, là, tu sais, c'est... Pff,
fait c'est un dur. Accomplissement puis un deuil en même temps. Mais finalement, ça a été quoi le déclic qui t'a... pousser à trouver l'énergie de t'entraîner et de faire la traversée.
C'est qu'à un moment donné, je parlais sur Skype avec mon ami Samuel de Suisse. Lui, c'est un des meilleurs slackliners dans le monde. Ça fait 12 ans qu'il fait ça. C'est lui est venu ici pour le record. Puis c'est lui qui a apporté la sangle.
OK.
Lui qui a apporté ça. Il est aussi fabricant de slackline.
OK.
Puis à un moment donné, on se parlait sur Skype. Puis là, j'ai parlé de ça, tu sais. Que j'avais ces sentiments-là, puis il m'a dit, tu sais, Dani, si t'es capable de marcher telle affaire, tu vas être capable. Puis là, de te faire dire ça par, tu sais, c'est comme ton idole, ou tu sais, comme quelqu'un que tu regardes comme ça, puis qui dit, t'es capable, tu sais, c'est comme, wow! Puis là, ça l'a... À part ça, le lendemain, j'ai marché 1 km sur le slackline.
Okay.
J'ai fait, regarde, là c'est... Ouais. J'y vais. Mais en même temps, je l'ai pas traversé d'un bout sans tomber, parce que j'avais pas... C'était pas ça mon objectif, tu sais.
Mm-hmm. Puis, qu'est-ce qui aurait fait que t'aurais pas été capable d'accomplir? C'est-tu parce qu'à chaque fois que tu tombes, ça te demande de l'énergie à remonter, puis vu que c'est long, tous tes muscles sont mobilisés longtemps, c'est la fatigue, en fait, qui t'empêche de continuer?
Pour des lignes aussi longues que ça, l'enjeu, il est beaucoup plus psychologique que physique.
OK.
Il y a le côté physique, mais c'est surtout parce que quand t'es dans le milieu, mettons pour une ligne de presque 2 km, t'es à 1 km de n'importe quel bord. Tu peux pas dire « Ah, je t'en ai, là. » Y a pas d'échappatoire simple. Fait que c'est un engagement, là. Une fois que t'es rendu à un certain point, quand tu pars, là, ça va bien, mais à un moment donné, la pression psychologique de « Là, faut que tu prennes la décision de tu continues ou tu revires de bord, tu sais. » Puis il y a un point de non-retour où est-ce que là t'es rendu trop loin puis que t'ailles d'un bord ou de l'autre, là t'es pogné.
Ça vient même de faire le bord que
exact. Puis nous, on a des plans pour aller secourir des gens, tu sais, si jamais il y a un problème. Mais vu que c'était la première fois que ça avait été installé une ligne de même, notre plan, c'est un plan, là. C'est pas une technique éprouvée depuis 25 ans. Là.
Sur la même ligne,
par exemple. Sur la même ligne. Fait qu'il y a ça aussi en jeu, là. C'est que oui, c'est sécuritaire, mais une ligne de 2 km, c'est unique au monde. Fait que c'est comme. Ultra, il y a quand même un risque qui est très très grand. Fait que c'est là où l'enjeu est. Puis là, c'est d'avoir. Puis là, pour pas se sentir stressé, il faut avoir confiance en ses capacités physiques. Pour avoir confiance en ses capacités physiques, il faut avoir testé ses capacités, il faut s'être entraîné. Puis, fait que là, j'ai pris le temps, tu sais, j'ai fait des allers-retours sur une ligne chez nous, tu sais, j'ai fait des allers-retours, j'ai marché des kilomètres, tu sais, allers-retours pour comme juste me sécuriser là-dedans, puis voir c'est quoi les
défis. Sans débarquer,
sans arrêter, juste pour voir c'est quoi les défis physiques qui arrivent, c'est où est-ce que ça fait mal en premier. Ben, on se rend compte que c'est dans les épaules.
Okay.
C'est vraiment pas dans les jambes. C'est les épaules, là. Si on tient nos épaules en haut comme ça, engagées pendant 2 heures, là, ça fait mal. Fait que là, on se rend compte que finalement, moi, à un moment donné, je dis bien que t'es capable de marcher juste un bras. Fait que là, tu reposes l'autre. Puis là, tu marches juste un bras, tu reposes l'autre. Puis avec l'expérience aussi, des lignes longues comme ça, ils sont divisables en sections. Fait qu'il y a des sections où c'est plus facile de marcher.
Okay.
Puis des sections où c'est plus difficile. Fait que dans la section où c'est facile, c'est là qu'il faut que tu te reposes. C'est comme quand tu cours, là, puis là, c'est le plat, genre, pff, cool, mais s'il y a une pente en avant, tu sais, c'est maintenant que tu te reposes, parce que tout à l'heure, ça va être plus dur, tu sais, fait que c'est comme une stratégie aussi, tu sais, dans ta course, une stratégie, fait que dans les longues lignes, il y a une stratégie aussi.
C'est beau comment on revient à l'idée de cycle, avec l'agriculture, puis avec les saisons, de pas toujours s'imposer, de fonctionner toujours de la même façon, à la même vitesse.
Mm.
Puis de, je pense qu'on est dans une culture où on valorise beaucoup d'être productif, puis d'être dans l'action, moins dans la méditation et l'introspection. Puis c'est comme si, peu importe les circonstances, on devait toujours agir pareil. Puis je pense que moi, c'était un peu c'est ça, ma mentalité, été, hiver. Comme les saisons n'avaient aucune différence sur le type d'entraînement que je pensais devoir faire, finalement, j'ai décidé de voir les saisons différemment puis de voir l'hiver comme une façon de me reposer. Puis que certains types, puis même avec, tu sais, pour une fille, le cycle menstruel, de dire, je le vois clairement qu'à certains moments, j'ai besoin d'activités plus intenses puis j'ai un plaisir à vivre des trucs, à faire des activités plus explosives comme par exemple le powerlifting ou l'entraînement haute intensité. Puis des fois, j'aime mieux faire du yoga vraiment calmement puis je dois respecter ça parce que ton corps en a besoin aussi comme de... Fait que je trouve ça intéressant de voir que tout peut être amené à ça, d'écouter son corps en tenant compte de l'environnement pour s'adapter puis trouver la meilleure approche, dans le fond. Fait que quand tu te rends compte de certaines faiblesses physiques ou des trucs que tu veux améliorer pour pouvoir traverser une ligne comme ça, est-ce que ton entraînement c'était de faire de plus marcher sur ta ligne ou c'était il y avait des entraînements physique que tu faisais en extra?
Mm.
T'allais-tu au gym? Je pense que non, mais...
J'allais pas au gym. Pour cette ligne-là en particulier, je me suis entraîné, en fait, pour un athlète, il trouverait que je me suis pas entraîné bien, mais c'était vraiment marcher. Je faisais des allers-retours sur ma ligne, parce que là, l'enjeu, c'était vraiment la marche. C'était de marcher vraiment longtemps. Mais il y a plusieurs différents types de pratiques dans la slackline. Il y a la marche, il y a des positions, on peut faire des positions statiques, comme des positions de yoga, avec des positions d'équilibre yoga sur la ligne. Fait okay. que là, si je m'entraînais pour ça, ben, tu sais, marcher, c'est pas...
Ok, c'est ça. Il y a des gens qui peuvent faire une ligne au parc, par exemple, entre deux arbres.
Oui.
Puis s'en servir juste comme pour ajouter un défi dans leur pratique de yoga, mais ça va pas nécessairement de faire... la marche.
C'est ça. Tu sais, puis je pense que, mettons, la pratique de la slackline vient avant comme l'intégration, ben avant l'intégration de mouvement de yoga sur la ligne. Mais bref, c'est ça, on peut faire des mouvements statiques, puis on peut faire des mouvements qui sont dynamiques aussi. Là, les mouvements dynamiques, c'est en utilisant les dynamismes de la ligne. Puis il y a différents mouvements, tu sais. Il y a le mouvement juste vertical, comme de haut en bas. Mm-hmm. Fait que vu qu'il y a une élasticité dans la ligne, on peut... Le point le plus élastique, c'est toujours quand tu es dans le milieu. Aller dans le milieu et faire des mouvements haut et bas. Ça, on va appeler ça en anglais le bounce. Là, tu sais. Ça, c'est le bounce. Puis, il y a le mouvement aussi qui est latéral. Ça, on va appeler ça le surf. Fait que là, ça, c'est quand on va de gauche à droite. On fait comme un surf. Puis, là, ce qui est intéressant, c'est... Ça se fait vraiment en highline. Mais là, c'est de faire des transitions. Fait que des mouvements transitoires. Quand on arrive au point mort... d'énergie. Fait que c'est quand on est comme en haut. Fait que quand t'arrives en bas, on pousse, là c'est engagé. Puis là quand on arrive en haut, il y a un petit moment
de légèreté.
Tu sais, petite légèreté. Puis c'est là où on peut faire une transition. Fait que de pied à assis, puis on arrive en bas, on est assis. Puis quand on remonte, on se remet debout. Puis là, ça c'est en utilisation avec le rythme.
Mm-hmm.
Puis moi j'écoute beaucoup de la musique quand je fais de l'highline. Fait que là, tu sais, c'est la musique, le rythme. L'énergie, puis là, c'est le focus, puis le micro-mouvement, puis la microseconde où est-ce que tu peux faire ton mouvement, puis là, tu tombes tout le temps, tu sais, fait que là, c'est... T'essaies de t'améliorer là-dedans, fait qu'il y a comme... Il y a la marche, puis il y a d'autres disciplines. Mais là, pour traverser la ligne d'asbestos, je voulais vraiment améliorer ma marche.
OK.
Fait que là, je marchais.
C'est quoi la musique que t'écoutes qui te fait sentir le plus concentré?
J'aime beaucoup ce qui est ambiant. Après ça va dépendre, tu sais, les différentes disciplines que je fais, là, mais okay. Quand je marche, j'ai eu différentes approches là, dans les dernières années. Là. À un moment donné, j'avais fait une playlist de comme 150 chansons vraiment différentes. Puis là, je la mettais sur aléatoire. Puis là, je me disais, genre, tu sais, l'univers va décider c'est quoi que je vais écouter, tu sais. Mais là, des fois, ça vient comme, tu sais, il y a une tune qui arrête, puis là, il y a une autre qui part, puis là, c'est le plus beau moment. Tu sais, c'est comme, waouh, cette chanson arrive maintenant, c'est tellement cool. Tu sais, il y a des mots dans les paroles que ça fait, waouh. Puis des fois, il y a une chanson qui part, t'es comme, ça me tente pas de l'entendre, tu sais, mais là, t'es comme un peu poigné, là, tu sais, changer la musique quand t'es sur une island, tu sais, c'est une sacrée. Mais j'aime bien ce qui est ambiant, tu sais, de l'électronique avec, avec de la musique électronique avec des paroles, mais comme qui est assez tranquille. Mais après ça, quand je fais des mouvements plus dynamiques, j'aime ça quand il y a plus de rythme. J'aime gros écouter comme... J'écoute gros du drum and bass là, quand que ça quand que je bounce ou c'est ça. Mais chaque personne écoute de la musique différente, mais tout le monde écoute de la musique qui le fait triper là. J'ai un ami qui écoute du hip hop là, du gros hip hop là,
puis y a-t-il d'autres équipements? Est-ce que vous avez des souliers particuliers ou vous êtes nu-pieds sur la
Il y a du ça c'est une question de préférence là. Il y a du monde qui met des souliers, il y a du monde qui sont nu-pieds. Il y a plus de monde qui sont nu-pieds, je dirais, qu'il y a du monde qui marche en souliers, mais il y en a quand même. Puis là maintenant il y a des nouvelles alternatives pour les pieds, parce que des fois tu sais, il fait froid là. Puis ce qui arrive c'est qu'avec les souliers on sent moins la ligne, on a un peu moins d'adhésion. Fait que là, c'est comme des souliers minimalistes un peu, avec un petit peu de grip en dessous. Puis là, ça, j'ai utilisé ça, par exemple, à Asbestos, parce que j'ai marché 2 km sur la ligne, puis il faisait fret le matin. Fait que là, c'était comme, ça va super bien.
C'est un produit de niche qui a été développé dans le monde de la slackline.
Effectivement.
Ok, ok.
Mais c'était associé aussi à genre à le monde qui font du trail running, nu-pied, là.
Ouais.
Parce que c'était un produit de niche, mais qui a été... utilisé.
Ok. C'est-tu un truc avec les orteils?
Non. Non, je pense que j'ai déjà vu des gens faire ça avec le truc les orteils, mais moi, il n'y a pas d'orteils.
Ok.
Mais il y a différents modèles. Là,
j'ai jamais essayé de tirer avec des orteils. Comme j'ai jamais... Je pense que j'aurais pas le courage de le porter en public, mais
ouais.
J'essaie d'être nu-pied. On essaie d'être nu-pied le plus souvent possible, puis même maintenant. L'été passé, on a testé de marcher nu-pied dans la rue pour se rendre jusqu'au parc, puis à Montréal, c'est un peu étrange. Mm-hmm. Je suis pas encore... J'ai pas encore le courage de l'assumer, fait que je traîne toujours mes souliers sur le côté, comme si je les avais temporairement
enlevés. Dans ta
main. Dans ma main. Mais j'étais à la quête de souliers minimalistes.
Oui.
Comme qui peuvent être portés en ville, de manière intéressante.
Ouais. Tu vas avoir des looks des gens pareils avec ça.
Exactement, ouais. C'est ça. Fait que là, on est dans une phase d'émergence où ça émerge dans des disciplines vraiment précises. Je pense que ça, comme tout, là, ça va donner de plus en plus mainstream. Puis ça, on va croiser à un moment donné le lifestyle, là, la mode lifestyle. Puis là, il va y avoir des souliers plus conventionnels. En tout cas, bref, petite parenthèse sur les souliers. Pour revenir à Asbestos, parce qu'il y a des questions plus techniques qui me sont venues en tête. Comme, je pense que c'est le genre de truc que je ferais dans ma vie, quoi, qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais il y a une partie de moi qui se dit, comme beaucoup de monde doivent se dire, puis comme peut-être ta mère s'est dit, mais oh my god, la ligne, elle va tout. Casser, tomber, lâcher. Comment vous avez adressé cet aspect-là? Comment, tu disais, ça a été fait la première fois. Fait, comment tu pouvais savoir que ça allait être sécur ou pas?
Le principe de sécurité sur une highline, c'est que c'est le principe de redondance qu'on appelle. Ça veut dire que chaque morceau dans l'équipement est soutenu par un deuxième morceau qui n'est pas chargé de tension. Fait que c'est comme s'il y avait deux slacklines avec deux systèmes d'ancrage différents qui sont mises une par-dessus l'autre. Il y en a une qui a de la tension, puis il y en a une qui n'a pas de tension.
Mm-hmm.
Fait que souvent, dans des photos d'highline, on va voir des petites loops en bas qui pendent. Fait que ça, c'est comme la ligne de sécurité qui est en dessous, qui est juste attachée avec
du tape. Comme on voit sur ton chandail, en fait, je viens de remarquer.
Oui.
Pour les gens qui regardent à la caméra.
C'est ça, exact.
Ok, je comprends.
Là, il y a les loops. Puis... fait que c'est ça. Fait que là, l'exercice qu'on fait, c'est qu'on va passer le système de l'ancrage jusqu'à l'autre ancrage, puis se demander qu'est-ce qui se passe si ça brise. Ah ben là, c'est soutenu par ça. Là, tu vas à l'autre morceau d'après. Ça brise, puis là, t'es passé tout. Puis là, il y a tout le temps une réponse à ça.
OK.
Puis après, ben, la ligne ici, ce qui arrive, mettons, puis le morceau le plus faible dans le système, c'est toujours la slackline, la sangle. C'est pas les ancrages ou les connecteurs à métal. Fait que là, ce qui arrive si la sangle est brise ici, ben, si c'est un morceau continu de 2 km avec en dessous un autre morceau continu de 2 km attaché avec du tape, ben, toi, tu vas prendre une méchante drop, là.
Mm-hmm.
Tu sais, tu vas faire une chute libre de genre 150 mètres, puis là, après ta chute libre de 150 mètres, tu vas être arrêté de façon sec dans un harnais d'escalade, tu sais, tu vas te casser la colonne vertébrale. Tu sais, c'est la mort assurée.
Okay.
Fait que finalement, ça, c'est la façon que ça fonctionne dans des lignes qui sont plus courtes. Fait que mettons, sur 100 mètres, si ça arrive... La deuxième ligne est là, mais là, tu vas dropper de 2 mètres. Fait que tu vas faire une chute un peu plus grande, mais c'est correct. Fait que là, ce qu'on a fait, ce qui a été testé pour la... C'est pas la première fois, mais c'était la première année que ce système-là existait. C'est que c'était toutes des sections de 50 mètres individuelles qui étaient toutes connectées entre elles. C'est-à-dire que si à un point la ligne brise, ça va juste s'étirer sur cette section de 50 mètres-là.
Parce que la deuxième ligne qui est courbée sur une petite distance. C'est ça, tu tombes de la différence entre la portion du haut puis la ligne d'en bas qui prend le relais. Genre.
Exact. Fait que ça c'était nouveau, puis ça l'a vraiment révolutionné. C'était vraiment innovant.
Okay.
Dans les très longues highline, parce que les premiers records du monde, c'était vraiment critiqué dans la communauté, parce qu'ils disaient, vous faites le record du monde, bravo, mais c'était pas sécuritaire.
Okay.
L'innovation était pas rendue.
Okay.
Au point là. Fait que c'est comme s'il y avait eu un bris dans la ligne, le marcheur serait mort.
OK.
Fait que là, ça c'est comme.
Ouais.
Ça c'est. Là, c'était. Puis là, ça c'est venu comme innovation. Puis fait que là, ça fait en sorte que c'est vraiment sécuritaire.
Ça devient un produit parce que ton ami en Suisse qui le produit.
Oui.
Sur mesure pour vous. Est-ce que ça l'a ouvert la porte justement? Ça a-tu fait comme une petite explosion de Highline dans le monde, hein, qui ont partant de votre innovation?
Pas vraiment, parce que installer des lignes de 1 km, là, c'est pas courant.
Okay.
Tu sais, le record, là, on parle du record du monde, c'est 1,9 km, mais c'est pas parce que c'est courant d'avoir des lignes de 1 km. Tu sais, des lignes de 1 km dans le monde, là, il y en a pas eu plus que 10 okay. depuis tout le temps. Fait que,
okay.
Puis en fait, moi, on a été chanceux parce que cette technologie-là, lui, il l'avait faite pour un projet qu'il y avait au mois d'août, juste comme un mois avant notre projet. Puis eux, ils voulaient battre le record du monde aussi, en Norvège. Okay. Puis ils ont installé une ligne de 2,8 km.
Oh!
Puis, fait qu'il l'avait faite pour ça.
Okay.
Puis moi, quand je l'ai contacté en début d'année, il était comme, ah oui, il dit tout ça, il m'a parlé de ce projet-là. Puis il m'a dit, je vais en faire une plus grosse batch, je vais en avoir pour toi aussi. Fait que là, nous autres, puis finalement, là, ça n'a pas fonctionné, leur projet, ils ont réussi à l'installer, la ligne, mais ils ont eu des températures infernales, ils ventaient énormément, il y a eu une tempête, tu sais, puis fait qu'il n'y a personne qui a réussi à battre le record du monde sur cette ligne-là.
Ils
n'ont pas pu.
Okay.
Puis, c'était un mois après, c'était chez nous ici. Puis là, okay.
Mais là, est-ce qu'ils vous ont poké en disant l'année prochaine? Est-ce qu'ils l'ont refait cet été?
Non, ils ne le font pas.
Ah, OK.
Non, parce que c'est ça, tu sais, organiser un événement de même, il a fallu qu'ils mobilisent 30 des meilleurs eyeliners dans le monde à venir 10 jours de temps en Norvège. Fait que là, c'est 30 personnes avec des horaires différents, puis tu sais, avec des vies différentes, là, qui viennent de plein d'autres pays. Ça coûte cher. Puis là, tout le monde s'est engagé à être là, puis tout le monde a mis vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie et tout ça. Puis finalement, il y a eu juste 4 personnes qui ont été sur cette ligne-là.
Ah oui, parce que les conditions étaient...
Les conditions
étaient... Mais pas assez bon pour monter dessus.
Non, c'est ça, les conditions étaient abominables. Ouais. Puis en plus, quand tu t'engages sur une ligne comme ça, ben tu sais, ça prend 3-4 heures.
Ouais.
Fait que dans une journée, là, qui fait beau, t'as 3 personnes qui peuvent y aller. Fait que c'est ça aussi, que quand les projets devaient être démesurés, là, la proportion de personnes que ça prend pour installer les lignes, puis combien de temps ça prend, puis combien de marcheurs peuvent aller sur la ligne dans une journée, ça devient disproportionné. Fait que c'est pour ça que des projets comme ça, il n'y en a pas tant que ça.
Mm-hmm.
Parce que le monde, il s'engage full, puis là, quand ils n'ont pas le temps d'y aller.
Mm-hmm. Je comprends. Et est-ce qu'il y a un volet compétitif de la Saturn ou du Highline? Y a-t-il des compétitions officielles de ça?
Oui, il y a des compétitions officielles. Ça reste quand même assez marginal. Il y en a eu dans les premières compétitions qui sont arrivées, c'était des compétitions dans une autre discipline en plus que je n'avais pas parlé. Ça s'appelle la Trick Line.
Okay.
Ça, c'est une sangle qui est plus large, qui fait 5 cm, fait 2 pouces. Puis là, c'est vraiment, c'est des acrobaties sur la ligne. C'est comme une trampoline de 2 pouces. Donc, ça, c'était vraiment populaire, là, dans, mettons, dans, il y a comme 5 ans, là, il y en avait vraiment beaucoup. Puis là, il y a eu un petit déclin. Là, les compétitions qui existent maintenant, c'est des compétitions, ce qu'on appelle la Highline Freestyle. Ça, c'est vraiment nouveau. Ça fait comme 2, 3, 4 ans que ça existe. Puis, puis ça, c'est les, ça, c'est les tricks que je parlais tantôt avec la, le dynamisme de la ligne. Fait que c'est sur des highlines de entre 50 puis 60, 70 mètres. Ça, c'est vraiment une belle longueur pour ça. Puis, puis là, c'est des compétitions un peu comme, c'est, comment dire, c'est des compétitions jugées.
Okay.
Comme la trampoline ou la gymnastique.
Puis c'est des, il y a un volet acrobatique, encore une fois.
Un volet acrobatique, mais par contre, les... Ouais, c'est ça, il y a un volet acrobatique.
Quand, quand tu dis freestyle, j'imagine de la danse, là, comme un peu du breakdance, genre, freestyle.
Ben, pas de la danse, mais dans le mouvement, tu sais, c'est faut qu'il y ait une fluidité.
Fait que ça, ça tend vers des fois des trucs plus artistiques, plus sensibles, ou...
Ben, ça, je pense que ça tend plus vers le côté sportif, okay. Là, vraiment de...
Des capacités
physiques. Des capacités physiques.
OK.
Puis là, cette année, à Asbestos, on va réorganiser l'événement, on va réinstaller la ligne de 2 km.
Mm-hmm.
Mais aussi, on va organiser la première compétition de Highline Freestyle au Canada.
OK.
Fait que ça, c'est une nouveauté qu'on va faire cette année. Fait que là, on intègre cet aspect-là comme compétitif à notre événement, qui est un événement public au mois de juillet, fin juillet.
Quelle date?
Du 25 au 28.
25 au 28, on va aller voir.
Fait que vous viendrez. Fait que on va faire une compétition là-bas, puis on, fait qu'on va avoir des athlètes de partout dans le monde.
OK.
Mais c'est que ça, l'aspect compétitif, c'est que ça, ça permet au public de... d'avoir des mots sur ce qu'on fait.
Mm-hmm.
Parce que sinon, quelqu'un qui s'entraîne, comment dire, s'il n'y a pas de commentaires, les gens, ils voient pas c'est quoi qui se passe, ils comprennent pas vraiment. Mm-hmm. Pourquoi la personne, elle tombe tout le temps, tu sais?
Mm-hmm.
Ben, quand tu vas au skatepark, là, puis que tu vois, genre, le meilleur skateboarder dans le monde, là, puis qui pratique son tricks le plus difficile, là, le tricks que personne n'a jamais réussi, avant de l'avoir, là, il va le manquer 350 fois, là.
Mm-hmm.
C'est sûr, c'est la même chose avec l'highline. C'est pour ça que, ben oui, tu sais, le monde des fois me demande, est-ce que tu tombes des fois? Ben oui, je tombe tout le temps. C'est sûr, c'est ça fait partie de, tu sais, quand tu kicks au soccer, est-ce que tu manques ta shot des fois? Ben oui.
Plus de fois que tu l'as réussi.
Plus de fois que tu as réussi, tu sais.
Est-ce que, j'imagine, le freestyle, ça permet aussi aux gens de voir plusieurs choses en un court laps de temps, parce que la personne est sur une plus petite distance, puis c'est fixe, fait que là, tu regardes la personne. Quand vous avez fait votre record, est-ce qu'il y a un, genre un drone qui suit la personne, puis on regarde sur une télé, ou on te regarde de loin, genre comme devenait minuscule?
C'est drôle, mais non, c'était plus ça. Mais c'est ça,
c'était... Connaissez-vous les jumelles, au moins?
Ça, c'était ce qui s'est passé l'année passée, là, parce qu'on a fait ça vraiment comme... Ça, tout a déboulé vraiment rapidement, mais là, cette année, on a... Ça, c'est dans les plans, tu sais, on va avoir une grosse caméra avec une diffusion en live sur l'écran. Puis c'est pour ça aussi qu'on intègre l'Highline Freestyle, parce que là, ça va être vraiment dans votre face, tu sais, c'est là, tu sais. Tandis que là, c'était quelqu'un qui marche pendant 2 heures, tu sais, c'est un petit point orange
Personne, puis tu veux savoir son chemin, ben
c'est ça.
Tu vas peut-être pas être attentif tout le long que tu restes.
Ouais, fait que là, on intègre des activités différentes, qui inclut la slackline, qui inclut le yoga, qui inclut plein d'autres choses pour faire participer. C'est un événement familial, gratuit, puis on veut qu'il y ait des activités pour que ça soit dynamique pour tout le monde.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a comme plein de d'idées là, qui sont sur la table présentement, puis on essaie de les placer ensemble pour que ça fit.
OK. Très cool. Puis je pense que t'as un ami qui est peut-être qui est parti à un centre d'entraînement de Slackline à Montréal.
Oui, ben oui, mon ami Julien, qui est propriétaire fondateur de Slackline Montréal.
OK.
Il a ouvert le premier centre d'entraînement de Slackline au Canada, mais même dans le monde, là, il n'y en a pas d'autres qui existent. Vraiment un gym d'entraînement spécialisé en Slackline. Lui, il est situé dans Rosemont, là, pas loin de Masson puis de Laurier. C'est super beau comme endroit. Fait que c'est pour s'initier à la slackline, pour l'essayer pour une première fois, surtout cet hiver, là, pendant qu'il mm-hmm. fait super froid. Là, c'est un super endroit pour y aller.
Ça ressemble à quoi, un gym de slackline?
Ben, c'est un gym où il y avait des, il y a des poutres. Il y a des poutres un peu dans le centre.
Industriel? Ou c'est lui qui les a mis?
Non, il était déjà là. Mm-hmm. C'est comme, il y a une possibilité là, de mettre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de slackline. Fait que ça fait comme une genre de petite toile d'araignée partout.
Mm-hmm.
Puis là, il y a des tapis comme de gymnastique. Là. Fait que c'est super confortable. Là. On se promène là, c'est super bien. Il y a une cuisine aussi. Est-ce qu'on peut aller, puis des fois le soir on se fait des repas en commun, il y a une place plus lounge pour chiller, tout ça, puis il y a même un espace de bureau à louer là, dans le même espace. Fait que là, ils louent des espaces de bureau à des gens là, puis dans le bail de location, ça vient avec l'accès au gym tout le temps. Fait que c'est mm-hmm. vraiment cool, là, parce que tu peux travailler, puis là, à un moment donné, là, tu peux prendre un break, tu peux mm-hmm. aller faire un peu de slackline, un peu de yoga, un peu de acro-yoga, faire un lunch, puis après ça, tu peux retourner travailler.
C'est drôle parce que c'est pas un gym juste pour s'entraîner physiquement, c'est un gym qui refait un mini-système, ou bien un style de vie de la slackline, parce que je pense
oui.
que tu m'expliquais ce que t'aimes, c'est... Quand tu rejoins tes amis ou tu vas faire la slackline, c'est tu vas faire du camping, tu t'installes un spot, puis il y a une partie de l'activité, c'est ça, ce côté-là, connexion avec la nature, où de toute façon, en séance, tu médites, puis à un moment donné, c'est ton tour, puis là, tu fais ton cheminement. Fait qu'il y a comme reproduit ça, où le but, c'est pas juste de l'intensité ou la performance, mais c'est ces petits coins-là où, comme, des fois, t'es dans cette toile d'araignée-là, puis d'autres fois, t'es juste à côté, tu chilles, il y a de l'ange pour être avec tes amis. Est-ce que c'est un centre qui est ouvert comme aux familles? Y a-t-il un public spécifique pour l'espace?
Non, c'est ouvert à tout le monde. Puis là, il y a une programmation. Là, je suis pas au fait de la programmation aujourd'hui. Fait que vous pourrez aller voir si vous êtes intéressé sur le site internet de Slackline Montréal. Mais il y a des cours là, il y a des cours super variés. Il y a des cours d'introduction, il y a des cours plus avancés.
Mm-hmm.
Il y a des jams d'acro yoga aussi. Je sais un soir dans la semaine. Il y a des périodes que c'est libre. Fait que là, on peut venir avec les enfants. Ça, c'est vraiment... c'est le fun. Mm-hmm. C'est ouvert à tout le monde.
OK. Puis quelqu'un qui aimerait... justement, il écoute le podcast aujourd'hui puis il dit « OK, c'est cool, j'aimerais ça. Moi aussi commencer. » Puis qui ne veut pas nécessairement aller au gym, mais qui se demande ce qu'il peut faire s'il y a deux heures dans la cour à installer. Où est-ce qu'on trouve de l'équipement de slackline?
Est-ce que la meilleure place, là, puis j'arrête pas, je vais leur dire, mais en ce cas, c'est chez Slackline Montréal. Okay. Là, Julien aussi, il vend des kits. Là. Mais c'est ça, Julien, c'est comme la personne qui a un peu, qui a démocratisé la Slackline au Québec. Ça fait 12 ans qu'il en fait. Puis, tu sais, il y a d'autres endroits où on peut s'en procurer, comme à la MEC, je sais, là, mais c'est pas fait par des gens qui font de la Slackline.
Okay.
Fait que c'est pas vraiment ça que je recommande. Moi, je recommande en fait pas ça. Moi, je recommande vraiment les kits de Julien parce que c'est vraiment des kits qui sont versatiles. Fait qu'on peut avoir le même kit pour quand on commence, pour quand on progresse. Fait quand on devient un peu meilleur, on peut juste lever un peu les ancrages. C'est vraiment du matériel super solide. Moi, ma première slackline, je l'ai encore. Ça fait 4 ans. Je l'ai utilisé là, des centaines d'heures, puis elle est restée 2 ans permanente dans ma cour, puis il n'y a pas de problème. Tu sais, fait
que
c'est super durable.
Fait qu'un kit, en fait, c'est la ligne, des ancrages en métal.
Ça va être des slings pour faire le tour des arbres, puis il va y avoir des mousquetons pour pouvoir faire le système de tension, puis il va y avoir la ligne.
Puis quelqu'un que, mettons, comme nous, ici, on a un appartement, typiquement allé au deuxième étage, on n'a pas d'arbres, mettons, chez nous, mais on aimerait s'en faire dans notre salon. Est-ce qu'il y a une façon de s'installer à l'intérieur?
Oui, il y a des façons de s'installer à l'intérieur. Puis après, là, ça devient un peu plus comme du cas par cas, là, tu sais, de comment l'appartement est fait. Mais la base, c'est que ça prend des points d'ancrage solides. Fait que là, dans la maison, il faut savoir sont où un peu les beams, tu sais, puis c'est où la structure fondatrice de la pièce. Fait que ça, il faut comme le localiser. Puis après ça, on peut... soit, puis après ça dépend de votre bail, puis tout, là, comment vous faites comme percer dans les murs, là, mais c'est sûr qu'il faut avoir accès à des morceaux fondateurs de la pièce. Puis là, on peut percer un trou, okay. Puis venir, mettons, mettre un anneau,
okay.
dans le beam. Puis on peut rediriger avec un petit socle en bois vers le haut pour aller chercher la hauteur,
okay.
qu'on veut avec la slackline.
Okay.
Puis là, c'est le setup là, pour dans une maison. Yeah. Julien avait ça pendant des années dans son appartement.
Là. OK. Je vais y passer. Je vais regarder ça, ce qu'on va y passer. Est-ce que tu as appris la slackline, tu as appris avec ta communauté? Est-ce qu'il y a des ouvrages, genre, est-ce que t'as, comme des sites web ou des livres que tu as aussi consultés pendant ton développement?
C'est principalement sur le web, là. Il n'y a pas vraiment d'ouvrages à proprement parler.
Mm-hmm.
C'est beaucoup sur le web. Moi, j'ai pas vraiment suivi des trucs sur le web. Julien a fait une série de 10 cours, là, 10 introductions à la slackline. Fait qu'il y a des positions d'introduction. Ça, c'est vraiment bon quand on veut commencer. J'avoue que j'avais regardé ces vidéos-là. C'était bon. Okay. Puis après ça, plus avancé, là, il y a un site internet, ça s'appelle Slackademics.
Okay.
Fait que c'est comme Academics.
L'Académie
Slack. L'Académie de Slack. Slackademics.
Comment vous appelez en vous? Est-ce que vous êtes des slackers ou des... Comment vous appelez?
On s'appelle...
Slackliners?
C'est... Ouais, on dit des slackliners. Parce que des slackers, c'est comme... C'est comme des paresseux. C'est pas faux pour quelques personnes, là, mais en majorité, c'est
pas... Okay, des slackliners. Parce qu'il n'y a pas de terme français.
Non, c'est ça. Il n'y a pas de terme français. Okay. Ça, c'est un peu comme du leadership. Hein?
Mm-hmm.
On ne sait pas quoi dire.
Non, je comprends. OK. Fait oui, fait que des fois, c'est ça, quelqu'un qui est sur Slack Academy pourrait avoir des bases pour pouvoir le faire par lui-même.
Ouais.
Progresser un peu.
C'est ça. C'est vraiment varié là, ce qu'il y a là-dessus. Là. Ils ont regroupé là, les gens qui faisaient des... qui avaient, mettons, des chaînes YouTube en slackline, ils sont tous regroupés là. Fait que, vous pouvez les trouver là-dessus. Il y a aussi... puis après ça, il y a des données vraiment plus techniques là, pour plus avancer.
Mm-hmm.
Mais c'est quand même une bonne place pour commencer.
Mm-hmm. Puis si on veut voir des photos de ce qu'on parlait, en fait, ton compte Instagram,
ouais.
qu'on prend des photos. Je disais qu'il y a deux choses. Ta vie de maraîcher puis ta vie avec la slackline.
Ouais.
Que les gens vont voir les deux. Mais s'ils sont curieux d'aller voir les images de... Tu dois publier aussi tes voyages.
Ouais.
J'imagine tes photos de voyage. Ça serait quoi ton... pas ton hashtag, mais c'est quoi ton compte pour que les gens qui veulent te trouver?
C'est quoi déjà? C'est...
On va le mettre...
Attends,
on va
non, je sais. C'est que... Vous voyez, je suis pas super... Ouais, vous mettez en vidéo. Attends, ouais, je sais que c'est quoi. C'est Danny Bouchard, mais... Bouchard... Je sais pas pourquoi c'est ça, mon nom, mais... Danny Bouchard, puis Bouchard pas de OU.
OK, OK.
Est-ce qu'il faudrait que je le change, là? Mais à ce qui paraît en anglais, ça fait rire le monde, parce que dans le maraîchage, ça fait Danny Bouchard, puis Chard, c'est de la bête à carbe.
Ah! Que ça marche.
C'est comme... Il y a un gars qui m'a dit ça à un moment donné, quand j'étais en voyage aux États-Unis, en maraîchage, il me dit « Ah, trop drôle ton nom sur Instagram, Chard! » J'étais comme, ah!
Okay. Est-ce que les Anglos t'appellent comme ça maintenant, Bichard?
Non. Non, non. Je ne changerais pas.
Fait qu'on. Je serais curieuse de terminer en parlant peut-être de ton prochain voyage, parce que ce que tu disais, c'est ça. T'as ta vie de maraîcher, t'as ta vie de slackline, puis il y a une belle cohésion comme entre les deux.
Mm-hmm.
C'est un emploi qui te permet de vivre ta passion pour la slackline parce que tu pars en voyage puis t'en profites pour faire un petit détour. Fait que je sais pas si tu veux nous parler vite du contrat que t'as eu pour le jardin d'un château en France parce que quand même c'est fou.
Ouais. Ben, j'ai travaillé avec un ami l'année passée à la ferme des 4 ans. Il y a un de mes amis, il s'appelle Baptiste. Lui, il venait de France. Puis il a travaillé un an avec nous. Puis il s'est fait offrir l'opportunité de démarrer un jardin maraîcher au sein des écuries d'un des plus gros châteaux de France. Mm-hmm. Ça s'appelle le château de Chambord. C'est un château qui a 1 million de visiteurs à chaque année. C'est un énorme château.
C'est lui qui a une arche qui passe au-dessus de l'eau. Ah non, je me trompe, c'est Chenonceau. C'est parce que je suis allée en France pour des châteaux, puis je me dis, oh my god, je suis allée. Non, je ne suis pas allée.
Mais en tout cas, c'est un très gros château. Fait que lui, il s'est fait embaucher pour ça. Puis là, il m'a demandé de l'accompagner dans la planification culturelle. Puis la sélection des outils pour son jardin, parce que c'était ça. Je me suis occupé de ça à la ferme des 4 ans l'année passée.
OK.
Fait que moi, je l'accompagne avec ça fait une couple de semaines. Puis je m'en vais en France au mois d'avril pour l'aider à faire l'implantation de ses jardins pendant 10 jours. Fait que je vais aller là-bas, je vais l'aider, ça va être vraiment cool, ça va être trippant. Puis tant qu'à être en Europe, tu sais, j'ai pris un billet plus longtemps. Fait que là, je vais aller faire de la highline avec mes amis en Suisse, avec le fameux Sam qui a apporté la sangle cette année à Asbesta. C'est que ça va être fun aussi, tu sais, je vais aller chez eux. Je vais voir ses installations avec sa gang, avec ses affaires. Fait que c'est il y a tellement des beaux spots en Suisse, là. C'est assez fou, là. Fait que j'essaie de garder un équilibre, là. C'est super cliché, là, mais j'essaie de garder un équilibre entre ces deux passions-là, tu sais. Qui est le maraîchage, la sacline, puis essayer de faire en sorte que je les joins. Puis le voyage, c'est une belle façon de faire ça.
On parlait tantôt de quand tu as quitté ton emploi à Femme des 4 temps, il y a plein d'opportunités qui sont venues vers toi. Tu as dit oui à plein de choses. Puis ça atteint un seuil que c'était trop, puis tu faisais plus une semence à clair. Fait, qu'est-ce qui t'a permis de trancher ou de justement mieux gérer tes engagements ou ton horaire?
Ben, d'abord, j'ai commencé par m'organiser. Parce que aussi, tu sais, je vivais un déménagement puis un changement de vie, là, c'était quand même complexe. Mais j'ai juste arrêté de dire oui. Là.
OK.
J'étais comme là, juste assez là. Fait que là, j'essaie de commencer, de prendre le contrôle de ce que je vis, tu sais, avant de comme embarquer dans d'autres projets. Mais ça, là, j'ai pas de remède miracle. Là. Je me suis équipé d'un bureau debout. OK. Parce que je vais faire un petit joke à ça. Mais maintenant, je travaille plus sur mon ordinateur. Tu sais, je fais de l'accompagnement de maraîcher. Je développe le projet d'Highline à Asbesta. Tu sais, je travaille beaucoup plus sur mon ordinateur qu'avant. Avant, j'étais toujours dans le jardin. Surtout là, c'est l'hiver. Fait que là, ben, je pense que les outils de travail, faut pas les négliger. Tu sais. C'est quoi qu'on fait dans notre vie? C'est quoi nos actions quotidiennes? Dans le maraîchage, on identifie toujours ça. C'est quoi qu'on fait toujours? Pas besoin d'être toujours à quatre pattes. Si t'es capable d'avoir un outil avec un long manche, boum, t'es debout, tu sais. C'est comme, tu viens de changer ton... C'est ta position. Fait que là, je me suis équipé d'un bureau debout. Je me suis juste organisé, tu sais. Fait que ça m'a permis de moins me sentir en perte de contrôle, hein, reprendre le contrôle sur ces projets-là, puis de le mettre clair, tu sais. Fait que d'avoir un gros tableau blanc parce que j'ai toutes mes affaires. Puis c'est souvent une question de charge mentale. Quand on travaille sur plein de choses différentes, si c'est tout dans notre tête, c'est too much. Il faut le sortir de notre tête, puis de le mettre sur un papier. Puis là, après ça, c'est comme, c'est visuel, c'est plus dans notre tête. Là, la tête, elle sent bien.
Là, tu ris parce qu'il me comprend. Moi, puis là, on est vraiment différents. Moi, il faut que je sorte les choses de ma tête parce qu'il y en a trop. Puis justement, tout ce qu'on voit en arrière, c'est pas de la déco, c'est vraiment des outils de travail.
Ah, moi, je trouve ça cool, là. C'est trippant.
Puis des fois, je les change justement parce que j'ai besoin de mouvement, là, dans mon esprit. Puis si c'est pas sur un mur, ça va être sur un cahier, dans mon iPad, sur un... Hier, dans le cours, je dessinais sur un bout de papier brun que j'avais utilisé pour essuyer le café que j'avais renversé sur ma table. Comme, j'ai besoin de matérialiser mes idées parce qu'à un moment donné, ça vient comme plein d'onglets d'ordi. C'est plus fonctionnel, genre. Puis je pense que le cheminement que j'ai fait dans ma vie, puis c'est... Ce qui m'a touché tantôt quand tu me parlais de ton expérience, c'est que je pense que dans tout, là, quand on parle de cycle, là, dans tout projet, où il y a toujours une phase d'enthousiasme, puis presque même de, pas de délire, mais comme de delusion, je sais pas le mot en français. En tout cas, t'es comme, faut que tu vois plus gros que ce que t'es capable de faire. Je pense que ça fait partie de la game, d'imaginer une réalité qui est pas dans ton environnement, parce que c'est comme ça que tu crées quelque chose qui n'a jamais existé. Mais là, t'as toujours le crash qui vient que ça devient trop. Puis que tu vois justement juste le gap entre tes capacités puis ton idéal. Puis là, tu paniques. Puis c'est la fin du monde. Puis là, après, c'est d'identifier les étapes ou les petites choses à faire pour reprendre du momentum puis gagner en confiance puis en compétence puis en confiance puis en compétence. Puis là, ça repart la machine. Mais bref. Fait que moi, il y a toujours des moments où je suis hyper enthousiaste. Puis là, j'accumule plein d'informations. Puis là, j'ai un crash, comme c'est mental et physique.
C'est drôle, on dirait que tu décris ma vie. On est-tu à la séance?
J'avais dit d'en parler parce que vite, il me trouve cute quand je dessine. Puis la décoration, c'est mes vrais crayons de couleur qu'on voit ici. C'est mes vrais crayons de couleur. Il me trouve cute, mais je pense que je sais qu'il a pas le même besoin que moi. On a des forces vraiment différentes, des façons de travailler différentes, puis c'est pour ça que ça marche bien entre nous deux, tu sais. Mais, fait qu'on s'appellera, on parlera de nos crayons, yes, puis de nos dessins, puis de nos affaires. Fait que je comprends ta méthode. Fait que bref, tu sais, ça fait que j'ai réalisé aussi que dans la vie, je devais apprendre pas juste à tout prendre non plus. Moi, je me disais, il faut que j'améliore ma capacité à gérer beaucoup d'informations, puis qu'il fallait que je prenne tout, mais que je m'améliore à classer l'information.
Hmm.
Puis là, j'ai réalisé qu'il fallait que je limite l'input pour pas avoir à gérer autant de données. Puis ça m'allégeait la tâche par après, puis ça t'oblige dans la vie à apprendre qu'est-ce qui est important pour toi. Parce qu'avant, j'avais tellement peur de manquer quelque chose en termes d'idées ou d'idéologie que je me disais, je vais tout prendre, puis je vais le bien classer, je vais le ranger dans ma tête, comme ça, plus tard, je vais aller le chercher, puis il va être encore là, tu sais, je vais l'archiver. Puis c'est pas pour rien que Renard, mon rêve, c'est d'archiver de la connaissance puis des idées sur le mouvement, parce que j'aime cette idée-là que j'ai à rien jeter, je vais juste tout classer, tu sais. Finalement, ben Marie Kondo, pour les gens qui la connaissent, elle est super à mode en ce moment parce qu'elle vient de sortir une émission sur Netflix. On l'a découverte là, peut-être un an et demi. Elle, c'est une experte du rangement de la maison. Elle aime, elle, le bordel physique des choses parce qu'elle aime le rangement. Puis son approche, c'est la première étape, c'est de te débarrasser de tout ce que tu n'as pas besoin. Fait que là, j'ai commencé à faire des liens, puis je me suis rendu compte que mon esprit, puis le tien aussi, c'est il est meublé, tu sais, puis on a décidé de ce qu'il y a dedans. Puis on peut s'alléger la tâche en faisant un ménage, comme dans nos idées. Bref, c'est une longue parenthèse, mais c'est ça. Fait qu'on a fait un ménage physique, moi puis Vince. Puis là, j'essaie de faire un ménage mental puis de mieux gérer mes idées. Puis ça fait partie de ce ménage quotidien-là que je fais, ou d'exposer mes idées, puis de les classer, puis de réfléchir à ce qui est important pour moi, vers où je vais aller, etc., etc.
c'est des outils de travail, c'est important de bien s'outiller, tu sais, dans son travail, peu importe c'est quoi notre travail, tu sais, c'est ça, faut pas négliger les outils.
On en reparlera, tu sais, je vais me laisser la note parce que je pense que l'aménagement de son environnement puis tous les outils quoi, électroniques ou physiques qui peuvent nous aider, je me rends compte que ça fait une grosse différence dans mon envie de bouger, puis ma capacité ou pas à bouger. Puis on pourrait en parler, genre, j'aimerais pas faire juste un truc là-dessus, mais fait que je vais me laisser la note pendant qu'on s'en parle. Puis pour conclure, si jamais nous on va au parc du Mont-Royal cet été, est-ce qu'on risque de te voir encore dans le coin?
Il y a quand même moins de chances, parce que là j'ai déménagé en Estrie, là, je suis à 2 heures du parc du Mont-Royal. Mais je viens des fois quand même, tu sais, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Mais sinon, si vous êtes à Sherbrooke,
on va aller le voir. Okay.
Le parc Victoria.
Non, parc Victoria. Pas. Fait que là, c'est le spot.
C'est ça. Sherbrooke, c'est comme le parc Victoria, c'est comme le parc du Mont-Royal.
OK. Fait que les gens de Sherbrooke, y a-t-il un rendez-vous un peu comme à Montréal, genre tous les dimanches?
Non, pas tout à fait.
OK.
Mais on va travailler à ça.
OK. Fait qu'il y a une petite communauté. Fait que les gens de Sherbrooke, ils sont pas perdus.
Oui, c'est ça.
Ils vont pouvoir te trouver. Ben, merci beaucoup pour ta présence.
Ouais, merci à toi de ton invitation. Merci à vous deux pour l'invitation.
On va te réinviter, c'est certain, puis on va aller te voir à Asbestos le 25 et 28, au 28 juillet.
Ouais. Cool.
Merci.